Voici les titres du journal.
Vendre de la drogue dans l'espace public doit conduire en prison. Un avis soutenu par le Grand Conseil vaudois qui a validé hier une initiative cantonale visant à serrer la vis pour les trafiquants. Elle sera bientôt transmise aux chambres fédérales. Création en Valais d'un laboratoire de recherche appliqué spécialisé dans l'hydroélectricité. L'Hydroalps Lab, c'est son nom, prendra une part active dans le futur énergétique du Valais. Tour d'horizon dans ce journal avec le ministre de l'Énergie, Roberto Schmitt. Les caves ouvertes vaudoises sous leur format traditionnel sont en fin de retour. Après une pause forcée, les vignerons des 6 régions viticoles du canton pourront recevoir le public ce week-end. En football, l'avenir de Benjamin Cololi s'écrira au pays du soleil levant. Le Bellerin rejoint cet été le club de Shimizu S-Pulse en première division japonaise. Et en course à pied, la deuxième étape du Tour du Chablais se tient ce soir à Olon.
Du soleil aujourd'hui et demain, c'est votre programme météo qu'on développera à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Le Grand Conseil vaudois veut durcir les sanctions pour les trafiquants de drogue. Les députés ont accepté hier en fin de matinée le dépôt d'une initiative sur le sujet auprès des chambres fédérales. Le texte exige que le deal dans l'espace public soit sanctionné par une peine privative de liberté. Une idée qui découle d'une proposition du PLR Grégory Devaux et l'Aiglon avait le sourire au sortir du vote.
Oui, une certaine satisfaction, c'est la fin d'un long processus au niveau cantonal, puisqu'à plusieurs reprises, ça a été validé par ce Parlement, certes à des courtes majorités, mais finalement une proposition, disons, du Conseil d'État qui nous est revenue suite à mon initiative, validée aujourd'hui, et étape suivante, envoie à Berne.
L'initiative a majoritairement été soutenue par la droite du Parlement. La gauche, elle, a émis plusieurs critiques. Elle craint notamment que mettre les petits dealers derrière les barreaux ne change pas la donne. Un argument qui ne tient pas, selon Grégory Devaux.
Mon président de parti disait que lorsqu'on on fait de la pêche, on se rend dans un endroit où on voit les petits poissons et puis souvent il y a un gros qui passe et puis ça nous permet de remonter un peu la filière. Et c'est finalement un peu la même chose dans le milieu de la drogue, malheureusement, et j'ai envie de dire. Et puis je comprends certaines craintes aussi d'une partie de cette gauche qui dit qu'aujourd'hui on a d'autres difficultés aussi, et notamment une surabondance de personnes dans les prisons. Mais encore une fois, c'est pas... Il y a plein de petits soucis à gauche, à droite, plein de petits réglages fins à faire, et peut-être probablement que cette proposition que nous faisons au travers de l'initiative est une de ces pistes de solutions à éprouver.
Autre argument de la gauche contre l'initiative, le peu de chance qu'a le texte de convaincre les chambres fédérales. Écoutez le ver lausannois Pierre Tzvalen.
Bon, l'Assemblée fédérale n'a pas l'habitude de prendre en compte, c'est très rare qu'elle prenne en compte des initiatives cantonales, ça c'est une chose. Elle ne le fera pas cette fois, d'autant plus que cela créerait une anomalie dans notre système juridique et dans la hiérarchie des peines. Créer une circonstance aggravante avec cette notion de trafic dans l'espace public est contraire au système des peines qui tient compte davantage de l'intention de l'auteur.
Grégory Devaux, lui, reste confiant et espère que des actions de lobbying cantonal et fédéral suffiront à convaincre sous la coupole. Un sujet réalisé par Isabelle Bertolini.
Faire croître les compétences industrielles dans le domaine de l'hydroélectricité en Valais.
C'est l'objectif de l'Hydroalps Lab, laboratoire de recherche spécialisé dans ce domaine et dont la création a été annoncée hier à Ride par les 4 partenaires que sont Alpic, les forces motrices valaisannes, Hydroexploitation et la Haute École d'ingénierie de la HESS au Valais. Roberto Schmitt est le ministre valaisan de l'énergie. Vous allez l'entendre dans un instant, il voit d'un bon œil la naissance de ce laboratoire. Mais auparavant, il nous dit où en est le Valais dans l'optique de la stratégie énergétique 2050 voulue par la Confédération.
Le Valais a fait un grand pas parce qu'on a notre stratégie énergétique cantonale, qu'on a fixé une vision d'un approvisionnement 100% renouvelable et indigène d'ici 2060, ça veut dire dans 40 ans. C'est un grand défi, mais on arrivera grâce à la force hydraulique qui reste la colonne vertébrale de l'approvisionnement.
Le projet de loi valaisanne sur l'énergie est en consultation. Quels sont les premiers retours?
Le premier retour, c'est que la direction, elle est juste, elle est bonne, et on va économiser l'énergie, on va décarboniser surtout les bâtiments, on va isoler les bâtiments. Après, on aura sûrement des grandes discussions sur la vitesse. Est-ce qu'on peut, par des mesures contraignantes, obliger les propriétaires à faire quelque chose? Mais la direction est saluée par tout le monde.
Le Valais compte aujourd'hui 160 centrales. On pourrait en compter beaucoup plus?
Peut-être pas beaucoup plus de centrales. On va peut-être réorganiser les centrales. On va supprimer peut-être quelques-uns qui ne sont pas tellement rentables pour construire d'autres. Mais ce qui est important, c'est qu'on augmente le potentiel de stockage de quelques centaines de mètres cubes pour justement pouvoir stocker un été capter l'eau et puis après turbiner avec les installations qu'on a déjà actuellement en hiver.
L'hydroélectricité peut encore prendre de l'ampleur, y compris en Valais. On doit faire quoi maintenant pour aller de l'avant avec l'hydroélectricité dans le canton ?
Déjà, on doit regarder avec des mesures fédérales surtout, aussi avec peut-être une aide fédérale, une aide financière fédérale, de maintenir la production actuelle parce qu'on a les droits de recours. Et puis après, il faudra trouver des nouveaux investisseurs pour les prochaines 80 ans. Alors de garder déjà le potentiel actuel, c'est déjà un grand défi. Après, c'est clair qu'on doit aussi produire plus de l'énergie hydraulique. Ça veut dire qu'on doit à peu près augmenter la production de 2,2 TWh sur le plan national, puis une bonne partie, j'espère, sera en Valais. Ça veut dire que c'est aussi des nouvelles opportunités pour notre canton. Mais ça ne suffit pas de dire qu'on doit produire plus. Ça veut aussi dire qu'on doit moderniser, optimiser nos infrastructures actuelles. Et pour ça, la recherche et le développement sont très importants.
Précisément, Roberto Schmitt, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la création de cette Hydro Alps Lab?
Je crois que c'est très important pour le canton du Valais, qui est le plus grand producteur d'hydroélectricité sur plan national, aussi de devenir un centre de compétences. Et si avec ce partenariat, on favorise la recherche, le développement, c'est pas seulement pour Valais, mais c'est aussi pour toute la Suisse et pour toute la force hydraulique européenne. Et je crois que c'est très important que nous, on prend en main cette recherche et ce développement.
Roberto Schmitt, interrogé par Yves Terrani, dirigé par Cécile Munch-Aligné, professeur à la Haute École d'ingénierie de la HESSO Valais, l'Hydro Alps Lab sera doté d'un budget de 2 millions de francs sur 5 ans. À terme, il occupera 10 personnes. Les Samaritains du Valais lancent un appel aux dons. Ils rappellent que bon nombre de sections locales sont indépendantes des collectivités publiques et doivent trouver des ressources, lesquelles leur permettent de réaliser leurs activités de manière autonome. Les soins sont toujours gratuits pour les blessés et malades. L'association précise également que la période de la pandémie a mis ces structures à rude épreuve, tant financièrement qu'humainement.
Bonne nouvelle pour les amateurs de vin vaudois.
Effectivement, ils ont une raison de se réjouir. Les caves ouvertes font leur retour après une pause forcée l'an dernier. L'événement aura lieu ce week-end dans les 6 domaines viticoles du canton, dont le Chablais. La manifestation sera le bouquet final d'un été 2021, déjà placé sous le signe des caves ouvertes. En effet, cet été, l'initiative à la carte est en vigueur. Mais qu'est-ce que c'est ? Réponse avec Benjamin Guérig, directeur de l'Office vaudois des vins.
C'est une initiative que nous avons mis en place l'année dernière, donc au mois d'octobre. C'était notre réaction à la pandémie. Donc l'idée, c'était de proposer une nouvelle formule des caves ouvertes que nous n'avons pas pu organiser l'année dernière. Donc une formule différente qui proposait une nouvelle expérience, une expérience beaucoup plus personnalisée, lors de laquelle on a voulu offrir en fait aux visiteurs des caves ouvertes la possibilité d'aller à la rencontre du vigneron dans un cadre peut-être un tout petit peu plus privilégié. Donc dans un cadre où il y a moins de monde, et puis c'était donc l'occasion de lui faire vivre une expérience beaucoup plus personnalisée, lors de laquelle le vigneron avait peut-être un peu plus de temps à consacrer aux visiteurs et lui présenter ses différentes productions.
Mais en septembre, plus besoin de réserver sa place à l'avance. Il suffira d'acheter un bracelet chez le premier vigneron pour faire la tournée des domaines. Tout sera quasiment normal, quasiment, puisque certaines restrictions seront tout de même en vigueur en raison de la crise sanitaire. Alain Emery du vignoble Emery à Aigle nous donne une idée des règles qu'il faudra respecter.
Les restrictions, on les connaît plus ou moins, parce que c'est les restrictions avec lesquelles on vit aujourd'hui. Les clients doivent être assis pour déguster. Pour le moment, il y a deux, trois choses. Mais finalement, le respect des distances sociales, etc., c'est des choses qui sont gentiment rentrées dans les mœurs. Donc au fond, on a fait déjà des caves ouvertes pour notre appellation, avec satisfaction, respectant des normes au mois de juin. Ça nous fait même plus peur de respecter les quelques normes et distances sociales qu'il faut respecter.
Notons encore que le pass sanitaire n'est pour l'instant pas obligatoire pour participer aux caves ouvertes. La liste des domaines qui prennent part à la manifestation est à retrouver sur mescavesouvertes.ch. Un sujet signé Thierry Nicolet. L'homme qui avait disparu à Villeneuve est décédé, âgé de 42 ans. Il avait quitté son domicile au matin du samedi 14 août. Il a été retrouvé sans vie à proximité de la carrière. Cette découverte a été rendue possible notamment grâce aux recherches menées avec un drone de la gendarmerie.
Le service vaudois des automobiles et de la navigation fête son 100e anniversaire.
Créé en 1921 sous la dénomination de service des moyens de transport, il employait alors 5 personnes pour gérer un parc affichant 3268 véhicules au compteur. Un siècle plus tard, le canton compte près de 590 000 véhicules motorisés et le service plus de 240 collaborateurs. Afin de marquer son jubilé, le service vaudois des automobiles et de la navigation lance plusieurs actions qui s'étendront sur ces 4 derniers mois de l'année. Après une deuxième édition interrompue par les mesures sanitaires, l'équipe de la Revue Vaudoise sera au Casino Barrière de Montreux cet automne. Intitulé « Avec ou sans vaccin », le spectacle emmené par Cuche et Barbeza, avec Les Peuches, Nathalie Devantet, Jenny Laurent ou encore Mirko Rocha, sera visible du 28 octobre au 28 décembre. 45 représentations figurent au programme. Plus d'informations sur www.revuevaudoise.ch. L'adaptation du code pénal suisse qui redéfinirait la notion de viol attendra au moins une année. C'est la décision prise hier soir par la commission des affaires juridiques du Conseil des États. Elle veut pouvoir examiner plusieurs options. Écoutez les explications à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
Les manifestantes présentes hier sur la Waisenhausplatz à Berne, à un saut de puce du palais fédéral, ont beaucoup crié pour faire entendre leur exigence de modifier le code pénal et redéfinir le viol. Elles exigent que tout acte sexuel commis sans consentement explicite ou tacite soit considéré comme un viol et puni en conséquence. La commission des affaires juridiques du Conseil des États planche sur ce dossier depuis plusieurs mois. Elle a mis en consultation une réforme et 10 000 avis ont été exprimés. Hier, cette commission a mené une très large série d'auditions. Des représentants des cantons, des poursuites pénales, des avocats, des associations de victimes et de victimes elles-mêmes. Et au terme de ces auditions, la commission a décidé de ne rien décider pour le moment. Elle charge l'administration d'étudier plusieurs possibilités. L'une consiste à tout faire passer sous la notion de viol. Il y a aussi des partisans du statu quo et des élus veulent de la nuance, une distinction entre un viol avec violence et une atteinte à l'intégrité sans recours à la force, une sorte de viol de deuxième catégorie. Plutôt que de foncer pour régler cet enjeu de société, la commission des États veut se donner du temps pour réfléchir, analyser les solutions. Elle reporte ainsi sa décision au premier semestre 2022. Le débat au sein du plénum du Conseil des États, qui aurait déjà pu se tenir ce mois-ci, n'aura pas lieu avant l'été 2022, en juin ou en septembre.
Merci Serge Jubin.
Les CFF pourront emprunter jusqu'à 950 millions de francs à la Confédération.
Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de relever le plafond des prêts à court terme pour permettre à l'entreprise de faire face aux conséquences du coronavirus. En 2020, le Conseil fédéral avait relevé le plafond à 750 millions de francs. À cause de la crise sanitaire, les CFF ont essuyé des pertes considérables, rappelle le gouvernement. La dette a crû de 1,5 milliard en 2020 et devrait augmenter d'un milliard en 2021. Le recours au phénotypage et la recherche en parentèle lors d'enquêtes criminelles devrait être limité à un petit nombre d'infractions. Pour la commission des affaires juridiques du Conseil des États, ces méthodes constituent des atteintes graves aux droits fondamentaux. Une liste d'infractions spécifiques doit être établie dans le cadre de la loi sur les profils ADN, selon elle. Par 8 voix contre 3, elle veut donc limiter le phénotypage et la recherche en parentèle aux enquêtes sur des crimes graves et violents contre la vie et l'intégrité corporelle, ainsi qu'à quelques autres infractions comme le brigandage, indique les services du Parlement aujourd'hui. Actuellement, les enquêteurs peuvent comparer les relevés de la scène de crime avec celle des suspects, mais seul le sexe de l'auteur d'une trace peut être déterminé à travers l'ADN. Le phénotypage ouvre la voie à des informations supplémentaires, la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, l'origine ou l'âge. La Suisse doit intensifier ses efforts pour contribuer à la stabilité et à la paix et renforcer les droits humains en Afghanistan. La commission compétente du National a déposé une motion demandant un plus grand engagement de Berne en collaboration avec toutes les parties impliquées. Si nécessaire, le Conseil fédéral devra soumettre au Parlement un crédit supplémentaire pour l'aide humanitaire dans la région, a indiqué aujourd'hui la commission de politique extérieure du National. Le montant de ce crédit devrait être fixé en se référant au volume annuel de l'aide accordée à la Syrie.
L'ouragan Aïda pourrait devenir le désastre le plus coûteux depuis 50 ans, selon l'ONU.
Sur cette période, une catastrophe a été observée en moyenne chaque jour dans le monde, faisant quotidiennement 115 victimes en raison de la météo, du climat et de problèmes d'eau. Le coût final d'Aïda n'est pas encore connu, admis aujourd'hui à la presse à Genève le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Mais en raison des dommages sur le système d'électricité, il est possible que les effets économiques de celui-ci dépassent ceux des autres catastrophes. Google a annoncé aujourd'hui qu'il faisait appel de son amende de 500 millions d'euros. Pour rappel, cette amende a été infligée en juillet dernier par l'autorité de la concurrence française dans le dossier des droits voisins. C'était la première décision d'une autorité de régulation européenne sur ce sujet. Nous sommes en désaccord avec certains éléments juridiques et considérons que le montant de l'amende est disproportionné par rapport aux efforts que nous avons mis en place, s'est exprimé le directeur général de Google France dans un communiqué. course à pied, la deuxième étape du Tour du Chablais se tient ce soir à Aulon. Après l'étape initiale qui s'est tenue à Roche la semaine passée, place ce soir à la deuxième course de cette édition 2021 de la manifestation chablaisienne. Pour l'occasion, les coureuses et coureurs se rendront à Aulon. Le programme mis sur pied par le CS Aulon comporte trois possibilités pour petits et grands. Du côté des adultes, c'est un tracé de 9,2 km qui est prévu pour 121 mètres de dénivelé. Côté organisation, l'année est spéciale. Après un report et de nombreuses mesures sanitaires, l'édition 2021 de ce Tour du Chablais est quelque peu différente, notamment en termes de participation. Une situation qui peut entraîner des répercussions, notamment sur le plan financier. Écoutez les précisions de David Pitier, responsable de la deuxième étape à Aulon.
Alors ça, avec les dernières directives que le Tour du Chablais nous a annoncées, c'est clair qu'on prévoit un petit peu moins de rentrées. Nonobstant le fait qu'on ne va pas pouvoir vendre en cantine comme on vendrait une manifestation standard où les gens pourraient plus s'arrêter facilement. Donc c'est clair qu'on s'attend à avoir un bénéfice un peu plus léger que les autres années.
Il y a des mesures sanitaires, vous en avez parlé. Quelles vont être ces mesures sanitaires dans les grandes lignes? Qu'est-ce qu'il va falloir respecter pour être dans les normes, dans les clous, on va dire ça comme ça?
Alors, il y a un plan Covid qui a été établi par directoire qui a été établi par le Tour du Chablais. Et de ce fait, il a été un petit peu allégé par le fait que les inscriptions sont en ligne. Donc, il y aura beaucoup moins d'inscriptions. Il n'y aura pas d'inscriptions sur place, ce qui permettra une fluidité qui sera assez correcte.
David Pitier répondait à Julien Traxel. Cette deuxième étape du Tour du Chablais se tiendra donc ce soir à Aulon. Le départ de la course sera donné comme à l'accoutumée dès 19h. En cyclisme, Stéphane Bisseger a dominé hier la deuxième étape du Tour du Benelux, un contre-la-montre de 11,1 km sur un parcours entièrement plat. Le Turgovien a distancé l'Italien Eduardo Affini de 15 secondes. À 22 ans, le coureur suisse a apporté une nouvelle preuve de son talent en précédant un autre Turgovien et grand espoir du cyclisme suisse Stéphane Kung, 4e au JO de Tokyo. Membre de l'équipe EF Éducation, Stéphane Bisseger a revêtu du même coup le maillot de leader du général, où il compte 19 secondes d'avance sur le Danois Kaspar Asgreen et 20 secondes sur Kung, 3e. Ce tour se termine dimanche en Belgique.
En football, cap sur le Japon pour Benjamin Cololi.
En fin de contrat, la saison dernière du côté du FC Zurich, le Bellerin a signé un contrat de 3 ans avec le club de Shimizu S-Pulse, pensionnaire de première division japonaise. À 29 ans, l'international kosovar n'a jamais caché son envie de vivre une expérience à l'étranger. S'il a reçu plusieurs offres provenant de Suisse et d'Europe, c'est au pays du soleil levant que le Chablaisien a décidé de poser ses valises. Un contrat qui, selon ses dires, ne pouvait pas être refusé, notamment sur le plan financier. Reste que l'argument pécunier n'a pas été le seul paramètre pris en compte. Les explications de Benjamin Cololi.
C'est pas uniquement l'argument financier qui m'a attiré, mais plein d'autres arguments. La sécurité, sachant que c'est comme la Suisse, le pays, je sais que j'ai entendu beaucoup de bien de ce pays. La J-League, c'est un très beau championnat en Asie. D'ailleurs, ça a confirmé ce que je pensais, puisque j'avais entendu, parce que c'était vraiment, quand je suis arrivé, je suis resté bouche bée en fait. Vraiment, c'est magnifique quoi. Le foot est très présent ici quoi.
Le Bellerin a paraffé un contrat de 2 saisons et demie avec le club de Shimizu S-Pulse, un engagement à moyen terme qui va l'éloigner de la Suisse durant au moins 2 ans, mais pas de quoi perturber le Chablaisien. On retrouve Benjamin Cololi.
Non, je dirais que justement, au contraire, 2 ans et demi, ça passe très vite, c'est très court. Donc voilà, la saison en cours, la saison est en cours. Donc voilà, après, une fois que la saison sera terminée, il ne restera plus que 2 ans. Donc voilà, je me suis dépaysé, ça c'est sûr, mais comme je l'ai dit, c'est un chemin très intéressant et le football au Japon est très 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 présent. Il y a des belles équipes, honnêtement, c'est des beaux stades, vraiment des pelouses mais magnifiques. J'étais vraiment étonné quoi. Les infrastructures sont très belles, on a un club de milieu de classement et les infrastructures sont vraiment juste magnifiques quoi. Donc voilà.
La une des propos recueillis par Julien Traxel. La saison de Benjamin Cololi au Japon est donc lancée avec le club de Shimizu S-Pulse. Le Bellerin a depuis son arrivée déjà disputé 4 rencontres sous ses nouvelles couleurs.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Latian Veillard, l'art d'imaginer et concevoir vos extérieurs. Réalisation et piscine. Latian Veillard, du rêve à la réalité.
Une après-midi bien ensoleillé. C'est ce que nous annonce Météo Suisse avec un mercure qui va indiquer au maximum 23 degrés en pleine, 19 à 1000 mètres et jusqu'à 12 degrés à 2000 mètres. Pour demain, toujours un temps bien ensoleillé avec quelques cumulus sur le relief l'après-midi avec la possibilité de quelques averses. Ça reste par contre à confirmer pour le mercure de 10 à 24 degrés en pleine et le thermomètre indiquera de 11 à 21 degrés à 1000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.